Bonsoir à toutes et à tous, il est 20h47, vous écoutez Fréquence Protestante au 100.7 FM et on se retrouve pour la reprise de Ça se discute, l'émission mensuelle des éclaireuses et éclaireurs unionistes de France. Alors on reprend cette année, alors émission un petit peu spéciale pour la rentrée. Je suis au micro Roxane pour partager 45 minutes avec vous de scoutisme unioniste. On va commencer tout de suite avec le sommaire et ce soir avec moi en studio, Paul. Bonsoir Paul.
Bonsoir Roxane. Environnement, marche pour le climat, engagement de la jeunesse, quelle place les unionistes prennent dans cet engagement ? Un événement national qui rassemblera les jeunes de la branche aînée des éclaireuses éclaireurs unionistes de 16 à 19 ans début novembre, c'est Canaan, le camp national des aînés. On découvrira un peu le programme de ce rassemblement et ce qu'il réserve aux 500 participants et participantes avec Basile tout à l'heure. Accueillir l'autre et s'ouvrir, c'est l'objectif que l'association se fixe cette année pour l'opération Un foulard pour tous et toutes. Quel est ce défi et comment y prendre part ? On partagera dessus en fin d'émission.
Alors vous pouvez réagir à l'émission sur les réseaux sociaux au hashtag Ça se discute et nous rejoindre sur la page Instagram et sur la page Facebook. Et c'est aussi l'occasion de partager vos envies de thèmes pour l'émission de cette année. N'hésitez pas si vous voulez vous faire entendre, si vous voulez parler de quelque chose ou juste avoir le plaisir de dire à vos grands-parents que vous passez à la radio, l'espace vous est dédié. Alors on part pour environnement, Paul ?
Tout à fait, on commence avec un petit thème environnement et justice climatique, puisque dans le scoutisme, la nature et l'environnement sont au cœur de nos actions, par nos activités, mais bien plus loin aussi par nos engagements. C'est par ce choix qu'on s'engage à vivre et en accord avec ce que nous offre la nature et à la respecter au maximum. C'est pour ça que sur nos activités, lors des week-ends ou des camps, on mange local et de saison, et c'est aussi pour ça que les bénévoles de l'association relèvent le défi d'un événement zéro déchet, que ce soit pour 10 ou 500 participants et participantes. Les réflexions se font pour agir en faveur de l'environnement, et au-delà de ces engagements que l'on prend, on se rend compte qu'il faut se mobiliser autrement pour montrer à tous et toutes la responsabilité qu'on a à prendre pour préserver notre environnement. C'est pour cela que l'on s'engage, notamment aux côtés du World Cleanup Day, une action qui a eu lieu samedi dernier et pour laquelle on avait réalisé l'année dernière plusieurs rassemblements et une interview surtout de Yaël Derry, l'ancienne coordinatrice de l'émission, de l'opération, pardon, qui était au micro de Marion et de Julie.
Le World Cleanup Day, c'est un grand mouvement citoyen pour nettoyer la planète des déchets sauvages. Concrètement, l'idée est née il y a 10 ans lorsqu'un entrepreneur en a eu marre de ramasser les déchets autour de lui et s'est dit « je vais mobiliser mon pays pour faire une grande opération de nettoyage national ». Ça a fonctionné, c'était en Estonie. Ils ont mobilisé 5% de la population avec 50 000 personnes et ramassé 10 000 tonnes de déchets. Comme ça a très bien fonctionné, ça s'est développé dans d'autres pays et pour les 10 ans, ils ont décidé de faire une grande opération mondiale parce qu'évidemment, les déchets, ça circule par la mer, par les airs et il y en a partout.
Est-ce que tu peux nous raconter un peu en France, du coup, comment ça s'est passé et combien de personnes ont participé ?
Alors en France, on a créé l'association World Cleanup Day France il y a 1 an et demi pour monter cette opération. Et ce sont 3000 sites de collecte qui ont été référencés dans tout le territoire, métropole et dom-tom inclus, et qui a mobilisé plus de 200 000 personnes.
Du coup, il y a plusieurs équipes locales unionistes qui se sont mobilisées, qui ont organisé ou participé à une opération de ramassage de déchets sauvages le week-end dernier. Et à Paris, Julie, elle a encadré la collecte du 15e arrondissement. Elle a laissé son micro aux éclés pendant l'opération.
Vous avez une pince à la main et un dossard étrange dans le dos. Qu'est-ce que vous faites ?
Je passe mon après-midi à participer au World Cleanup Day. C'est-à-dire qu'avec l'aide des autres personnes qui participent à cet événement, eh ben, on ramasse les déchets dans la rue, tels que les mégots, les canettes, et on les trie. Et donc on participe à sauver la planète à petite échelle.
Qu'est-ce qui vous a poussé à faire le World Cleanup cette année ?
Déjà, je pense que c'est une très bonne cause parce que nous voyons plein de déchets dans la rue et faut vraiment que quelqu'un prenne ça en main et c'est une bonne cause.
Donc vous pensez que à petite échelle, on peut faire de grandes choses ?
Exactement.
C'est beau, c'est beau. Bon, et du coup, est-ce que ça vous fait plaisir quand même de faire ça ? C'est pas trop la joie de ramasser les déchets, si ?
Ça va, les gens à côté de nous encouragent et quand ils voient qu'on a ramassé, déjà juste le fait de ramasser des déchets, ils sont contents, ils nous remercient et c'est sympa.
La propreté à Paris, ça n'existe plus. C'est n'a jamais été aussi sale. Aussi, je vous remercie, vous les scouts et les éclaireurs, de nous donner un coup de main. Parce que vraiment, moi je suis née à Paris, de parents nés à Paris, de grands-parents nés à Paris. Donc ça fait un certain temps, j'ai 71 ans, j'ai jamais vu Paris comme ça. Mais aussi, je vous remercie.
Et est-ce que vous avez quelque chose qui vous a particulièrement touché ou, je sais pas, un état d'esprit que vous voulez partager?
Il y a quelque chose qui m'a choqué, c'est les mégots. Il y en avait vraiment, mais partout, à chaque centimètre, il y a des mégots. Donc, au pied des arbres, partout. Donc voilà, c'est choquant, mais bon, on fait ce qu'on peut.
Bah, c'était très bien, il y avait beaucoup de mégots. Beaucoup, beaucoup. Je crois qu'on a au moins une dizaine de 7 litres de, en une heure, ouais, de bouteilles de mégots. Et sinon, c'était très sympa.
Énormément de mégots partout, dans les arbres, tout ça. Aussi beaucoup de passants qui se sont arrêtés pour nous encourager, nous remercier. C'était très agréable. On les a remerciés aussi pour leurs encouragements. Voilà, l'idée, ça serait bien s'il n'y avait pas à faire ça tous les ans et que les gens pouvaient faire attention à ce qu'ils jettent leurs mégots, par exemple.
Bah alors du coup, comme on vient de l'entendre, les mégots sont vraiment un fléau dans les villes notamment. On se rend vraiment pas compte et donc c'est important de le rappeler que quand on jette son mégot sur le bitume, il va ensuite dans les égouts qui se déversent dans les fleuves, qui se déversent dans la mer. Et donc pour rappel, un mégot pollue 500 litres d'eau. Alors Yaël, je sais que vous avez mené une opération symbolique spéciale mégot au pied des tours de la Défense. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé et combien de mégots vous avez ramassé?
Ce sont plusieurs entreprises qui ont mobilisé leurs salariés sur leur temps de travail pour aller ramasser les mégots sur le parvis de la Défense. Nous avons tous ensemble collecté plus de 200 000 mégots qui ont été ensuite recyclés avec notre partenaire Cyclope qui valorise ce type de déchets pour en faire du béton par la suite. Ce qui est important surtout, c'est que oui, des entreprises se sont mobilisées, des salariés, mais ce sont avant tout des citoyens qui ont envie de changer les choses, étaient également partenaires de cette opération, le Paris La Défense. Et l'important, c'est surtout que c'est tous ensemble qu'on peut arriver à changer les choses, les collectivités, les entreprises, les bénévoles, les associations. Donc nous étions tous présents pour cette opération et un grand bravo à tous surtout.
Du coup, tu disais que vous aviez recyclé les mégots ramassés. Mais donc, c'est ça aussi l'esprit du World Cleanup Day, c'est valoriser les déchets ramassés, pas seulement les remettre à la poubelle après.
Absolument. Dans nos consignes de ramassage, il ne s'agit pas évidemment de tout brûler par la suite. Il s'agit vraiment de pouvoir trier à la source au moment du ramassage et surtout de valoriser l'ensemble des déchets. Et nous avons mis tout au long de l'année en place des partenariats à cet effet, pour pouvoir, avec des entreprises, avec des associations, pour pouvoir valoriser les déchets au maximum. L'important, c'est que le World Cleanup Day est un point de départ pour une prise de conscience, pour vraiment faire bouger les choses.
Donc Yaël le disait l'année dernière au micro de SAS Discute, c'est par l'engagement de tous et de toutes qu'on peut agir. Et l'engagement, dans notre association, on le sent présent. Et notamment en ce moment, on voit la jeunesse demander la justice climatique et marcher dans les rues, se mobiliser pour interpeller sur ces questions. Ce soir avec nous, Virginie, responsable des éclaireuses et éclaireurs unionistes de France en Ile-de-France. Elle s'engage pour le climat. Bonsoir Virginie.
Bonsoir.
Alors, Virginie, toi tu t'engages pour le climat et pourquoi est-ce que pour toi c'est important de se mobiliser sur cette question?
Alors pour moi c'est important de se mobiliser sur cette question parce que en montrant assez régulièrement maintenant qu'on descend dans la rue, assez nombreux et nombreuses, ça pour démarre juste de dénoncer la passivité au niveau de nos systèmes. Et donc c'est pour ça que je participe à cette mobilisation de la jeunesse et du moins l'année dernière, avant l'été, je participais aux marches climatiques qui avaient lieu tous les vendredis.
Très bien. Et alors donc on l'a évoqué rapidement, comment est-ce qu'on peut se mobiliser autour des questions de justice climatique? Est-ce que la marche, c'est la seule chose à faire?
On peut se mobiliser de différentes manières, je pense déjà à son échelle personnelle ou dans la sphère familiale, mais je pense que ce qui est assez important et de manière plus grande, entre guillemets, c'est aussi ces mobilisations, ces marches qui font qui montrent que on est de plus en plus nombreux, nombreuses à descendre dans les rues pour justement contester et voilà, en se rapprochant de certaines associations et certains mouvements, on peut montrer notre engagement éco-responsable.
Et chez les unionistes, toi par exemple dans ton groupe, est-ce que tu fais des choses à ce sujet? Il y a un internaute pénal 178 sur Instagram qui nous demande comment concrètement, avec son groupe, avec ses jeunes, on peut faire des choses sur cette question-là.
Dans nos groupes, on peut amener de nombreux sujets de conversation et de débat. Et on peut, par exemple, sensibiliser nos jeunes sur tout ce qui est, par exemple, consommation de viande, comment réduire nos déchets, comment faire en sorte de laisser une planète un peu plus propre à chacun de nos passages. On peut aussi s'appuyer sur des documentaires qui sont intéressants. Je sais que les Louveteaux, notre groupe, ont regardé le documentaire Demain, qui a suscité énormément de questionnements sur tout ce qui est agriculture, mais également démarche alternative. On peut mettre en place avec les parents également tout ce qui est pour le pique-nique du dimanche midi, la notion de zéro déchet. Et on peut aussi participer à des activités organisées dans des fermes urbaines, par exemple.
D'accord. Et donc là, on en parle comme si c'était une évidence. Est-ce que pour toi et est-ce que dans ton groupe local, ça a été une évidence de s'engager sur les questions climatiques?
Alors non, c'est pas. Il me semble pas que ça soit une évidence pour tout le monde. Moi, je suis responsable éclé et l'année dernière, avant le camp de cet été, justement, j'en parlais avec les plus grands qui faisaient la grève, qui se mettaient en grève le vendredi après-midi. Et justement, j'ai questionné sur est-ce que leur quotidien était en adéquation avec leur engagement dans cette grève lycéenne. Et souvent, voilà, on relevait ensemble que souvent c'était pas le cas, et donc du coup c'était toute une réflexion sur comment faire en sorte que notre engagement citoyen rentre avec une démarche un peu plus réfléchie dans notre quotidien. Je sais que à l'heure actuelle c'est encore parfois totalement abstrait pour les plus jeunes de se rendre compte que certaines actions ont des conséquences, mais pas directement pour le lendemain, mais qui ont des conséquences sur des générations et des générations. Et ça, pour les plus jeunes, c'est encore un peu abstrait. Mais on est là pour les faire réfléchir justement sur l'avenir et comment améliorer les conditions de vie pour les générations à venir, donc les générations de louveteaux, louvettes et éclaireurs et éclaireuses à venir également.
Merci beaucoup Virginie. Merci beaucoup pour tes retours, pour ton engagement citoyen et dans la
bonne soirée Virginie. Au revoir, bonne soirée, au revoir.
Alors, quelqu'un nous posait la question sur Instagram sur le choix des textiles et notamment, par exemple, des foulards pour avoir diminué l'impact environnemental. Il faut savoir que l'association, elle se questionne sur le choix de ce qu'on porte, de ce qu'on mange. Donc, c'est une réflexion globale et on vous invite, comme cet internaute, à vous poser les questions quand vous faites un foulard ou quand vous faites un produit pour votre groupe. D'où viennent les produits, les matières premières. Donc voilà, c'était ce petit point sur l'environnement. On va se retrouver tout de suite après les actus du mouvement et on parlera d'un camp national qui lui aussi s'engage pour organiser un événement en faveur de l'environnement et même zéro déchet.
Bonne rentrée. Les activités des éclaireuses et éclaireurs unionistes reprennent partout en France. Pour inscrire vos enfants ou vous engager bénévolement, toutes les informations sont sur notre site internet, évidemment eudf.org. Nous venons d'en parler avec Virginie. Face à la crise climatique, l'association des éclaireuses et éclaireurs unionistes soutient toutes les mobilisations non violentes, le climat et la justice climatique et invite ses membres qui le souhaitent à les rejoindre. Comme le disait Baden-Powell, le fondateur du scoutisme, essayez de quitter ce monde en le laissant un petit peu meilleur que vous ne l'avez trouvé. On vous le rappelle, les inscriptions pour le Jamboree européen en Pologne l'été prochain sont ouvertes jusqu'au 15 octobre pour les unités et 15 décembre pour les équipiers et équipières de service. N'hésitez plus. Canaan, c'est le camp national des aînés dont on parlera tout à l'heure. Il aura lieu à la Toussaint et les inscriptions sont ouvertes aux équipes jusqu'au 7 octobre. Vous l'avez découvert ou vous allez le découvrir lors de vos assemblées régionales. Le rapport d'orientation qui sera présenté à la prochaine assemblée générale de l'association est amendable sur Internet. Toutes les informations auprès de votre équipe régionale. Et on termine ces actualités par le Grand Kiff 2020, le rassemblement des jeunes de 15 à 20 ans organisé par l'Église protestante unie de France et co-organisé avec les EUDF. Il aura lieu du 29 juillet au 2 août 2020 à Albi. Rendez-vous dans le Tarn.
Une année bien chargée chez les unionistes, plein d'actu, plein d'événements. Et du coup, on va en parler d'un qui va arriver tout vite. Là, du 28 octobre au 1er novembre, Paul nous a dit, le camp national des aînés, c'est un grand rassemblement pour tous les jeunes de 16 à 19 ans de l'association. Et ce soir, avec nous pour en parler, Basile. Bonsoir Basile.
Bonsoir Roxane, bonsoir Paul.
Alors, tu es responsable en Ile-de-France, chez nous, chez les unionistes. Tu as de nombreux engagements et tu es membre de l'équipe du programme, de l'équipe...
Je suis membre du pôle programme, voilà, de l'équipe d'organisation de Canaan.
Eh bien, ça nous intéresse. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la thématique de Canaan?
Alors, la thématique, c'est extrêmement large, évidemment. Donc, Canaan, c'est le camp national des aînés, avec tous les aînés de France qui seront rassemblés. Donc, on parle évidemment d'environ un peu moins de 500 participants, en tout cas. Des thèmes qui vont être très larges, puisque la thématique, le folklore, si on veut, va être un peu encadré un peu dans l'environnement du camp, puisqu'on va se thématiser sur les questions, par exemple, des luttes agricoles du Larzac. Donc, vu qu'on sera en plein Larzac, ce sera très intéressant. Et en plus, ce Canaan sera basé donc sur le thème du choix, le Canaan choix évidemment, et donc qui sera la question comment est-ce qu'on prend nos prises de décision, comment est-ce qu'on peut nous en tant que jeunes s'engager dans la société, changer cette société, et dans un deuxième temps la question de passer des valeurs à l'action, parce que les valeurs, les belles paroles c'est important, mais on est ici aussi pour montrer et pour prouver que quand on s'engage en faisant les choses, et ben ça marche encore mieux que quand on fait juste en parler, comme disait Virginie tout à l'heure.
D'accord, et donc ces belles paroles et ces belles valeurs, justement, on les a bien comprises, ce thème de Canaan, mais donc concrètement, qu'est-ce qu'on pourra y faire ?
Alors, Canaan, c'est une multitude d'activités différentes qui vont être proposées aux aînés et aux responsables aînés. Tout d'abord, c'est un moyen d'avancer ou de commencer sa route aînée. Donc, en équipe, il y aura aussi des moments pour réfléchir en équipe, mais des moments aussi pour réfléchir de manière plus personnelle, avec des forums, avec des intervenants ou des témoignages de personnes, de groupes en troisième étape qui sont venus un peu apporter du contenu, moudre du grain pour les routes, avec aussi évidemment des temps de formation et pour les aînés et pour les responsables. À côté de ça, des temps d'échange, de festivités, un peu de voilà, fêter aussi ce que c'est que la branche aînée, pour aussi un petit peu qu'ils aiment à se rencontrer, continuer aussi cette logique de création d'équipes, de fait de souder les équipes entre elles. Et enfin, évidemment, des activités fil rouge. Donc c'est là que la partie programme rentre en jeu. Donc avec notamment, on a souhaité reprendre l'activité du congrès donc sur Winter is Coming, pour se poser la question de l'environnement, encore une fois, un thème central aux unionistes. Et évidemment, le tout articulé autour de plein de questions, les inégalités, la justice climatique, et le tout en devant faire donc des choix. Et voilà, donc, et puis après, le reste, c'est que du fun à tous les moments, du bon son et du bon fond. Voilà, c'est ça, Canaan.
Et alors, bon, on va sortir un petit peu du programme. On a des questions un petit peu plus logistiques, et notamment Ambroise, elle nous demande, elle demande comment on revient de Canaan. Nous, on élargit, comment on y va, comment c'est organisé, comment on peut rejoindre Canaan, puisque tu dis il y a des questions d'environnement. Et c'est où déjà en fait ?
Alors ce sera à Bécourt, et évidemment on ira tous en trottinette Lime.
Super.
Non, pas du tout. Donc en fait les transports fonctionnent un peu d'une manière un peu étonnante, on va dire. C'est-à-dire que les gens venant de toute la France, c'est difficile d'organiser un seul convoi pour tout le monde. Donc c'est à chaque équipe de mettre en contact avec l'équipe d'organisation de l'événement. Et donc ensuite, ce qui se passe, c'est que si les billets de train sont pris assez tôt, c'est aux équipes de prendre leurs billets de train aller et retour qui seront remboursés directement sur l'arrivée à Canaan. Et si c'est en voiture, on vous incite évidemment à faire le maximum de covoiturage pour venir. Et donc ensuite, vous serez défrayé, donc en fonction d'un calcul compliqué que je ne maîtrise pas, puisque je ne suis pas dans l'équipe administrative et comptabilité, mais bien dans l'équipe programme. Mais en tout cas, tout est expliqué sur le formulaire d'inscription, qui est lui donc sur la page Canaan. Vous pouvez retrouver, vous tapez juste Canaan sur Facebook et vous aurez toutes les informations.
Donc on revient de la même manière qu'on arrive.
Alors, si vraiment vous voulez revenir d'une autre manière, de toute façon, vu que c'est plutôt vous qui prenez vos transports, vous pouvez par exemple partir de Paris à l'aller parce que vous avez passé une première vacance à Paris et puis ensuite retourner à Bordeaux, là où vous habitez. Il n'y aura aucun problème, je pense. En tout cas, on est là pour vous. On est une grosse équipe de faire en sorte que pour tout le monde, ça se passe bien. Et l'événement commence évidemment au moment où vous commencez à prendre vos transports pour venir, au moment où vous rentrez chez vous et que vous êtes dans votre lit bien au chaud.
Bon, c'est des belles nouvelles bien rassurantes du coup sur comment est-ce qu'on vient, parce qu'on a tous envie de venir, mais du coup comment est-ce qu'on s'inscrit ?
Eh ben justement, c'est ce que je disais, donc sur la page Facebook de Canaan, il y a un formulaire à remplir, c'est pour les responsables qui doivent inscrire leur équipe, toutes les équipes doivent être accompagnées d'un responsable, c'est vraiment important. Le responsable inscrit toute son équipe, ça prend un temps raisonnable, qui n'est pas très long. Et ensuite, voilà, vous pouvez inscrire-vous le plus vite possible, parce qu'évidemment, pour nous, ça nous permet de simplifier l'organisation. On adorerait que vous soyez déjà 400. Je ne sais même pas où en sont les inscriptions, d'ailleurs, en termes de nombre. Mais en tout cas, on sait qu'à chaque fois, les inscriptions se font un peu au dernier moment. Donc n'hésitez pas, faites-le avant le 7 octobre et faites-le vite, parce qu'on compte sur vous, ça va être un événement qui va être génial.
Si jamais on n'a pas Facebook, si on tape Canaan inscription dans son moteur de recherche, on devrait tomber dessus, sans doute.
Oui, sans doute. Sinon, vous demandez directement par mail à l'adresse canaan@eudf.org.
Non. Je crois que c'est ça.
Ouf. Ça doit exister.
Sinon, communication@eudf.org, on se débrouillera.
Voilà, on vous fera revenir vers la personne compétente.
Et est-ce que tu as un message à passer, Basile, aux aînés qui écoutent l'émission ? Parce qu'ils écoutent, ils sont en grand nombre.
Bah tous.
Tous. Donc, ils vont venir à Canaan. Quel message tu leur donnes ?
Alors, Canaan, il faut que vous sachiez que c'est un événement formidable. C'est pas juste un événement que je vais vous vendre comme ça, comme étant le meilleur événement du monde, parce que, en fait, c'est un événement qui est ambitieux. Il est ambitieux dans ce qu'il va vous proposer, dans ce qu'il va mettre en place, dans ce qu'on va être capable de faire tous ensemble. Et cette ambition, on la défend par des valeurs, des réflexions, des moments qui vont nous apporter à tous. Nous, cette, l'équipe d'organisation, les responsables présents sur le moment, on le fait parce qu'on sait que ça va aussi et surtout, non peut-être pas surtout, aussi nous apporter à nous. Et c'est pas pour n'importe quelle raison qu'on fait cet événement, c'est que Canaan, c'est le gros événement des unionistes, le plus récurrent. On parle de, voilà, il y a encore quelques années, il était à 250 participants ou 150 participants. Maintenant, on parle de 400, 500 participants. C'est immense, mais ça permet de rencontrer toute sa branche, de rencontrer une immensité de personnes, et dans des débats, dans des sujets qui vont être avant tout ambitieux. On va pas se contenter de ce qu'on a, on va pas rester où on est, notre but c'est d'aller le plus loin possible, au bout des choses, se poser les bonnes questions. Aujourd'hui, Canaan, c'est l'endroit du mouvement où vous, aînés, vous allez pouvoir prendre le plus de place par rapport à là où vous étiez avant. Peut-être que vous sortez des éclés, vous étiez sur un camp éclés, où vous étiez, pour souvent, du coup, les plus grands, vous aviez votre manière de faire, votre manière de dire. Et ben là, c'est pareil, même mieux. Vous serez acteur de ce Canaan, vous pourrez y participer de A à Z, en faire le meilleur événement, et ça, pour ça, on compte sur vous. C'est vous qui serez, justement, les principaux acteurs de ce Canaan.
Je crois que le message est bien passé.
Le message
Venez.
Est bien passé.
Je sais que vous serez là.
Très bien, merci. Bon, on espère vous croiser en grand nombre là-bas. Et donc, merci Basile. Et on peut retrouver toutes les infos sur la page Facebook de Canaan, comme on l'a dit, auprès des responsables aînés de votre région. On se retrouve tout de suite, juste après une petite pause musicale, pour parler du défi d'ouverture dans l'assaut.
Je prends le mauvais côté de la vie et je lui casse les côtes. T'inquiète, on ira vivre un jour sur la côte ouest. Tu crois qu'on n'aura pas de billets sur le compte? Mais dans 2 ans, je fais des milli, qu'est-ce que tu racontes, ouais? Je prends le mauvais côté de la vie et je lui casse les côtes. T'inquiète, on ira vivre un jour sur la côte ouest. Tu crois qu'on n'aura pas de billets sur le compte? Mais dans 2 ans, je fais des milli, qu'est-ce que tu racontes, ouais? Dans 2 ans, je m'avance peut-être un peu, mais peut-être pas. Je préfère être un connard prétentieux plutôt qu'un pré-rempart. Je préfère me tromper dans ma stratégie que de finir dans vos statistiques. Mon futur, une tragédie si je remplis pas de stade ici. Paname, capital asservi par le biais du rap et les gars qui sont servis. Y'a des gars des battes qui nous racontent la sermie, les gars des baraques et des gars qui font du Nesby. Malgré ça, on est tous pareils, on a tous arrêté l'école espérant que ça paye. On n'a pas les mêmes ventes ni le même succès, mais la même boule au ventre avant d'aller sur scène. Mais jamais de ma vie je me suis méfié, pourtant jamais je referais un vrai métier. Donc je prends le mauvais côté de la vie et je lui casse les côtes. T'inquiète, on ira vivre un jour sur la côte ouest. Tu crois qu'on n'aura pas de billets sur le compte? Mais dans 2 ans je fais des milli, qu'est-ce que tu racontes, ouais? Je prends le mauvais côté de la vie et je lui casse les côtes. T'inquiète, on
de billets sur le compte. Mais dans deux ans je fais des mini, qu'est-ce que tu racontes, wesh. Dans deux ans je m'avance peut-être un peu mais peut-être pas. J'adore me prendre pour un prophète quand je reçois des propales. J'adore quand je rappelle à ma grand-mère que de ma vie j'ai fait du peur à pour elle. Tant que je suis pas chez Drucker, ça finira clodo et ça le restera. Ça finira salement blindé, salement je sais pas quand ça commence à barder. Écoute, dis-moi ce qu'on attend, que ça plaise au padré, que ça plaise au rinté, que ça plaise ou pas, on le fera pendant 20 ans. Mais rassure-toi mon cœur, on aura ce qu'il faut quand il faudra. Ça je l'espère de tout cœur, sinon tu t'es mis dans le beau drap. Jamais de ma vie je me suis méfié, pourtant jamais je referai un vrai métier. Donc je prends le mauvais côté de la vie et je lui casse les côtes. T'inquiète, on ira vivre un jour sur la côte. Ouais, tu crois qu'on n'aura pas de billets sur le compte. Mais dans deux ans je fais des mini, qu'est-ce que tu racontes. Ouais, je prends le mauvais côté de la vie et je lui casse les côtes. T'inquiète, on ira vivre un jour sur la côte. Ouais, tu crois qu'on n'aura pas de billets sur le compte. Dans deux ans, je fais des mini, qu'est-ce que tu racontes, wesh. J'espère qu'un jour on ira se balader, faire le tour comme Aladdin. Son tapis sera ma Bentley, seulement là je te demanderai ta main. Avant je dois rester là, je dois bosser à la caisse. On partira quand mon salaire fera l'affaire. J'espère qu'un jour on ira se balader, faire le tour comme Aladdin. Son tapis sera ma Bentley, seulement là je te demanderai ta main. Avant je dois rester là, je dois bosser à la caisse. On partira quand mon salaire fera l'affaire. Donc je prends le mauvais côté de la vie et je lui casse les côtes. T'inquiète, on ira vivre un jour sur la côte. Ouais, tu crois qu'on n'aura pas de billets sur le compte. Mais dans deux ans je fais des mini, qu'est-ce que tu racontes. Ouais, je prends le mauvais côté de la vie et je lui casse les côtes. T'inquiète, on ira vivre un jour sur la côte. Ouais, tu crois qu'on n'aura pas de billets sur le compte. Mais dans deux ans je fais des mini, qu'est-ce que tu racontes. Ouais,
vous écoutez Ça se discute, l'émission mensuelle des éclaireuses et éclaireurs unionistes de France sur Fréquence Protestante 100.7 FM ou sur le site de Fréquence Protestante. Dans cette dernière partie d'émission, on va vous parler d'un défi qu'on va relever dans l'association cette année. C'est l'opération Un foulard pour tous et toutes. Alors tout début septembre, on a demandé aux coordinateurs et coordinatrices de région pourquoi on pouvait se lancer le pari de l'ouverture cette année chez les unionistes. On écoute leur avis.
Je pense qu'en s'ouvrant, on peut gagner aussi de notre côté vers de nouvelles pratiques, de nouvelles personnes.
Parce qu'on a très peu de mixité, je trouve, au niveau des enfants qu'on accueille dans nos activités. En tout cas, c'est le constat qu'on fait en région.
Parce que c'est cool d'être avec plein de monde et que tout seul, on s'ennuie.
L'ouverture, parce qu'on a un projet éducatif tellement percutant et pertinent qu'il faut en faire profiter un maximum d'enfants.
Alors le scoutisme se veut une activité de loisir ouvert à tous et à toutes, alors osons l'être plus en profondeur et c'est le défi qu'on se lance cette année avec l'opération Un foulard pour tous et toutes. Avec nous ce soir au téléphone Léonore, membre de la commission recrutement et valorisation qui est à l'initiative de cette opération. Bonsoir Léonore.
Bonsoir.
Alors Léonore, est-ce que tu peux nous dire d'où vient cette opération Un foulard pour tous et toutes ?
Alors cette opération, elle vient de plusieurs choses. D'une part, au fondement du scoutisme à l'origine, Baden-Powell, son ambition c'était d'offrir des vacances, du loisir, des sorties à des enfants qui n'avaient pas la chance de vivre ces opportunités d'éducation. Et aujourd'hui, il y a 3 millions d'enfants en France qui ne partent pas en vacances. Donc c'est aussi renouer avec les origines du scoutisme que de vouloir être plus ouvert et de faire vivre le scoutisme à plus d'enfants. Et puis on a aussi réalisé une étude sociologique de notre mouvement il y a 2 ans maintenant, qui a montré qu'on n'était pas tout à fait à l'image de la mixité de la société, c'est-à-dire qu'on était globalement très urbain, avec certaines catégories de population plus représentées que d'autres. Et donc ça nous a donné envie de nous lancer dans un défi pour aller nous ouvrir à des personnes différentes, et aussi parce que ça fait partie de notre projet éducatif, un mouvement en marche vers les autres. Donc cette année particulièrement, nous mettre en marche vers les autres.
Mais alors, on se lance un défi, mais comment concrètement, dans un groupe local, on peut faire pour vivre l'ouverture ?
Alors l'idée qu'on a eue, nous, c'est avec la COREV, la Commission Recrutement Valorisation, c'est de proposer à tous les échelons de l'association une boîte à outils une boîte à idées qui donne justement plein d'idées pour aller chercher davantage d'ouverture dans nos régions, dans nos groupes locaux, mais aussi au niveau national. On a des commissions qui s'engagent au niveau national. Donc on a créé un outil. Alors ça peut être un livret sur l'imprime, ça peut être un support présenté sur un support numérique qui donne des idées sur quatre grands thèmes. Donc le premier thème, c'est aller chercher de la mixité dans le monde protestant. C'est le premier partenaire et donc il y a aussi de la mixité chez ces partenaires-là. Il y a plein d'idées. Deuxième axe, c'est aller développer le scoutisme dans des territoires où il n'y en a pas encore. Donc notamment les territoires ruraux. L'étude sociologique a montré qu'on était très urbain, donc comment aller faire vivre du scoutisme à la campagne. Troisième axe, c'est mieux nous adapter aux sociologies de toutes les familles. Comment est-ce qu'on rend nos activités plus accessibles financièrement? Comment on s'adapte au mode de vie des familles recomposées en proposant du scoutisme le mercredi par exemple? Et puis le dernier axe, c'est de mieux valoriser tout ce qui existe déjà dans notre association, donc les dispositifs de camp-école, les stage BAFA développement spécial pour accueillir des gens qui n'ont jamais fait de scoutisme. Voilà, donc on a vraiment un outil qui est une boîte à idées pour tous les échelons d'association.
Et je pense que les gens qui nous écoutent sur Fréquence Protestante pourraient peut-être nous aider à relever ce défi. Donc vous avez entendu, on relève ce défi. Donc si dans le milieu protestant, dans le milieu rural, ou si vous avez des idées pour accueillir plus de monde, n'hésitez pas à contacter. Donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement des personnes qui peuvent nous accompagner si on veut se lancer dans ce défi?
Alors oui, donc il y a le principal interlocuteur des groupes qui voudraient se lancer dans le défi, c'est le pôle développement de l'association, donc c'est au niveau des salariés de l'association au niveau national. Donc il y a le pôle développement qui est composé de Maxime et de Amy, qui sont des salariés permanents, et puis cette année le mouvement a décidé de faire appel à un service qui sera exprès dédié à faire vivre l'opération Foulard pour tous et toutes dans le mouvement. Donc il suffit d'écrire à l'adresse corev@eudirect.org et puis vous serez recontacté ensuite par ce service civique accompagné par quelqu'un du pôle développement qui vous aidera à mettre en place des actions dans votre groupe, qui pourra envoyer les outils dont vous avez besoin, et tout est fait pour que ce soit facile pour vous.
Un grand merci Léonore. On va continuer cette question du défi de l'ouverture avec Basile qui va un petit peu nous parler du projet Caribou. En tout cas, on te remercie de nous en avoir parlé.
Merci,
on te souhaite une bonne soirée Léonore.
Merci.
Alors Basile, je disais tout à l'heure de multiples engagements. Tu en as un autre, c'est le projet Caribou. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est le projet Caribou?
Alors le projet Caribou, très rapidement, c'est une initiative qui a été lancée en tout cas par un petit groupe de bénévoles en Île-de-France d'abord, il y a 2 ans maintenant, et en fait qui s'est donné un peu le projet, la mission de se dire, et si on proposait à des groupes d'accueillir des enfants exilés, c'est-à-dire qui sont venus de force ou par nécessité en France, pour qu'ils puissent un peu participer à des activités au scout, se faire d'autres amis aussi en dehors de l'école, et tout simplement vivre notre belle aventure qu'est le scoutisme.
Et ça existe depuis maintenant 1 an.
2 ans.
2 ans.
Donc un peu, en fait on n'a rien inventé. En fait, accueillir des enfants exilés se fait dans certains groupes depuis extrêmement longtemps. Voilà, il y a déjà eu même des propositions à l'échelle nationale, il y a une dizaine, voire quinzaine, voire vingtaine d'années sur ce sujet-là. On s'est juste dit qu'il y avait peut-être encore quelque chose à faire. Donc nous, tout simplement, on s'occupe d'un côté d'aller voir des groupes locaux qui pourraient être intéressés, qui ont les moyens de le faire, et on s'occupe de leur faire des ateliers de sensibilisation et de formation un peu avec des outils qu'on peut leur donner avec notre expérience qu'on a, nous, développée soit nous-mêmes dans nos groupes, soit tout simplement avec des retours d'expérience qu'on a pu faire d'autres groupes qui ont pu accueillir. Et de l'autre, on a des partenariats, on démarche des associations qui s'occupent d'enfants exilés pour, en fait, tout simplement leur proposer, de leur dire, écoutez, est-ce que vous avez des enfants qui seraient intéressés? Parce que, en fait, on s'est rendu compte que ça pouvait être intéressant. Notamment notre partenaire principal, qui est donc le Centre Primo Levi à Paris, et qui, dans sa démarche de soins des personnes qu'elle accompagne, trouve ça très intéressant un peu de envoyer les enfants faire des activités, que ce soit sans les parents, parfois, pour un peu faire ce qu'on appelle détacher l'effet de grappe qui peut se créer dans une situation d'exil. Et donc, le scoutisme a aussi des bienfaits envers des gens qu'on ne pensait pas forcément, donc les personnes exilées. Et j'en profite pour, passer un petit message aux responsables de France qui pourraient nous écouter dans leurs groupes locaux, qui seraient intéressés. N'hésitez pas à envoyer un mail à l'adresse caribouteur@gmail.com si vous êtes intéressé, on vous répondra avec plaisir. Et enfin, quelques dates pour vous dire que le 20 octobre, le 23-24 novembre et le 8 décembre, il y aura des ateliers formation Caribou. Le 20 octobre à Valence et à Paris. Le 23-24 novembre à Lille. Et le 8 décembre à Montpellier ou à Nîmes, nous ne savons pas encore.
Très bien, mais alors on va tous suivre avec beaucoup d'intérêt la tournée du projet Caribou partout en France. On parlait d'outils qu'on mettait en place pour accompagner les groupes locaux. Il y en a un, c'est peut-être le tout dernier des outils qui est paru juste avant l'été. C'est un dictionnaire multilingue. À quoi ça sert? Est-ce que tu peux nous en parler?
Alors, le dictionnaire multilingue, c'est un outil qui a été développé donc par le projet Caribou, qui est donc enfin, le pôle communication du mouvement, si je me dis, il a été bien participé aussi, et du coup un document qui présente le scoutisme en 11 langues, toutes différentes. Je n'ai plus la liste en tête, donc je ne voudrais pas dire de bêtises en disant une langue qui n'y est pas ou qui n'y est plus, mais qui n'y est pas, parce que pas que ça enlève, enfin passons. Et du coup, ce document peut permettre tout simplement à présenter le scoutisme à des familles dont les parents ne parleraient pas forcément français. On voit souvent dans les situations d'exil, dans des pays, dans des familles qui viennent de pays non francophones, que les enfants apprennent beaucoup plus vite le français que les parents. Et du coup, pour les parents, une petite simplification en leur donnant tout simplement ce petit dictionnaire multilingue, leur permettant de présenter ce que c'est que le scoutisme de manière générale, historique, mais aussi ce que c'est que le scoutisme unioniste et ce qu'on met en place et qu'est-ce que ça engage comme activité.
D'accord. Et donc ce dictionnaire multilingue est disponible sur la bibliothèque numérique de l'association bibli.eudf.org.
Exactement. C'est donc le premier document de la bibliothèque quand on ouvre le site de la bibliothèque.
Oui, parce qu'on l'a mis en coup de cœur, parce qu'on aime beaucoup le projet Caribou. Et aussi, du coup, autre chose, on parle d'accueillir des enfants en situation d'exil. Est-ce qu'il y a des adultes qui rejoignent l'association?
Oui, alors ça c'est un peu plus annexe dans ce qu'on fait, mais on le fait évidemment aussi. Ça s'est lancé d'abord avec des enfants tout simplement qui étaient éclaireurs, qui ont fait les aînés, qui maintenant ont décidé de devenir responsables. Donc on s'occupe de se dire qu'on peut leur faire des formations BAFA, ce qui est aussi gratifiant dans leur vie professionnelle, dans leur intégration dans la société française de manière générale, et pour leur permettre de continuer ou de commencer leur engagement chez les unionistes en tant que responsables. Donc voilà, ça représente pour l'instant que peu de monde, mais en tout cas, s'il y a des adultes qui sont intéressés, ou des jeunes adultes en tout cas, il ne faut pas qu'ils hésitent à nous contacter aussi.
Un grand merci, Basile, pour ces informations sur Caribou, donc en lien avec notre défi d'ouverture. Quand on a demandé au même cordeau qu'on a entendu tout à l'heure au micro, l'ouverture c'est quand? Eh bien, voilà leur réponse.
Quand on se sent prêt?
L'ouverture, ça peut se vivre, à mon sens, tout le temps.
Bah, l'ouverture maintenant.
Demain?
Bah, tout de suite. Maintenant ou demain?
Bah, l'ouverture, ça commence maintenant.
Ouais, c'est maintenant l'ouverture là, c'est maintenant qu'il faut y aller là.
L'ouverture c'est maintenant, donc faut y aller. Nous voici d'attaque pour cette nouvelle année 2019-2020 entre engagement personnel et collectif. Vous avez plein de contacts maintenant si vous voulez vous lancer des défis. Merci à Virginie et Léonore au téléphone pour leurs réponses. Merci à Basile pour ta présence dans le studio et la réponse à tes questions. Dès demain, vous pouvez partager et réécouter le podcast de l'émission et vous retrouverez le mois prochain la vraie équipe de SAS Discoute et on a hâte de découvrir leur nouvelle édition. Quant à moi, je vous souhaite une belle année et une belle soirée à l'écoute de Fréquences Protestantes.